découvrir et comprendre la doctrine sociale de l'Église avec Mgr Marc Hayé.
Une autre difficulté, pour continuer sur l'Église et la démocratie, à laquelle se heurte notre conception de la démocratie et de la souveraineté populaire sur laquelle elle est censée reposer, pourrait être le processus de construction européenne auquel nous assistons depuis plusieurs décennies. Bien entendu, je n'entends évidemment nullement remettre en cause le bien fondé d'une Union européenne susceptible de relever certains défis économiques, sociaux, environnementaux, etc., que les États membres ne sont pas, ou ne sont plus en mesure en tout cas, de relever individuellement ou isolément, comme nous allons le dire, c'est le fameux principe de subsidiarité auquel nous avons consacré un certain nombre de catéchèses auparavant. Une question d'une certaine importance se pose néanmoins. L'Union européenne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est-elle démocratique au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire dirigée par le peuple, au moins par la voix de ses représentants élus au suffrage universel. Il est quand même objectivement permis d'en douter pour plusieurs raisons. D'abord, comme nous l'avons souligné déjà, je pense, une démocratie présuppose l'existence d'une communauté nationale unie, cohérente, solidaire et capable d'accepter certaines règles de vie et de consentir à certains sacrifices, d'où l'importance d'une langue et d'une identité commune. C'est évident qu'une communauté nationale, sa cohésion vient souvent quand même de sa langue et qui est le véhicule de sa culture. Or, s'il existe bien une certaine culture et certaines valeurs communes en Europe, d'ailleurs qui viennent de la culture chrétienne pour l'essentiel, même s'il y a d'autres cultures qui ont aussi permis la construction européenne. Il n'y a pas à proprement parler de peuple européen, nous ne parlons pas tous la même langue. Entre un Suédois, un Finlandais, un Français et un Espagnol, c'est sûr que nous parlons des langues différentes et qui signifie que pour créer une cohésion et une unité entre tous ces peuples, pour faire finalement un seul peuple européen, c'est comme quand même une gageure. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler de peuple européen, précisément. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen, que les citoyens des différents États membres élisent au suffrage universel, ne représente nullement le peuple européen, mais les différents peuples d'Europe qui coexistent en son sein, et d'ailleurs, les partis élisent dans notre pays des représentants pour le Parlement européen, qui vont rejoindre des partis sans doute transversaux, comme le Parti populaire européen, etc., ou le Parti socialiste, ou qu'importe, mais qui restent quand même représentants des intérêts de leur nation et de leur peuple. Sans rentrer dans le détail d'une organisation juridique complexe, le fonctionnement de l'Union européenne repose principalement sur la Commission européenne, notamment chargée de la gestion des politiques communes et des fonds européens, politiques agricoles communes, par exemple la PAC. Or, les 27 commissaires européens sont, qu'on le veuille ou non, des technocrates qui ont été nommés, non pas élus, pour 5 ans, et qui n'ont pas de compte à rendre à d'éventuels électeurs puisqu'ils n'ont pas été élus, et dont les préoccupations sont d'ailleurs généralement très éloignées des aspirations des peuples européens. Autant on peut trouver au Parlement européen, parmi les députés, des préoccupations qui relèvent du peuple qui les a élus pour siéger dans cette instance européenne et donc des intérêts de leur nation, autant ces commissaires européens ont été nommés, même s'ils sont agréés d'une certaine manière par le Parlement européen, et ce sont des technocrates qui sont quand même chargés de prendre des grandes décisions sur les politiques communes. Donc, vous voyez, on peut douter quand même de l'aspect très démocratique, finalement, de cette procédure. Depuis plusieurs décennies, le droit européen s'impose, comme on le sait, directement aux États membres de l'Union, ce qui signifie que dans chacun des États en question, le législateur saumure en simple chambre d'enregistrement des décisions qui ont été prises à Bruxelles et qu'il est tenu de transposer dans son droit national. C'est ainsi que la majeure partie des lois, qui très concrètement s'appliquent et s'imposent dans tous les domaines, à l'ensemble des citoyens des pays membres de l'Union, n'ont plus pour origine la volonté du peuple ou celle de ses représentants, mais sont issues de simples directives européennes. On le voit à travers les bras de fer auxquels on assiste aujourd'hui entre l'Union européenne et certains États membres, je pense par exemple à la Pologne, à la Hongrie, sur certaines lois sociétales auxquelles la majorité des citoyens n'adhèrent pas à travers leurs représentants qui sont élus au suffrage universel par leur peuple. Même si, justement, c'est là qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les lobbies et les médias, de concert, travaillent l'opinion publique, la manipulent pour essayer de faire jaillir une majorité plus artificielle que née du sein de du peuple. Enfin, la doctrine sociale de l'Église soutient, comme nous l'avons répété à maintes reprises, qu'il ne saurait y avoir de véritable démocratie sans le respect du fameux principe de subsidiarité que nous avons à peine effleuré. Or, l'Union européenne ne respecte guère dans la pratique le principe de subsidiarité auquel ses textes fondateurs se réfèrent pourtant et que la Cour de justice européenne interprète elle aussi de façon équivoque. Je cite un site officiel du Parlement européen, dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union, le principe de subsidiarité inscrit dans le traité sur l'Union européenne définit les conditions dans lesquelles l'Union dispose d'une priorité d'action par rapport aux États membres. Vous voyez comment est un peu interprété de manière équivoque ce principe de subsidiarité. En d'autres termes, l'Union européenne agit comme si le principe de subsidiarité lui conférait le pouvoir de déléguer de haut en bas aux États membres un certain nombre de compétences. Ce n'est pas ça, le principe de subsidiarité. Rappelons par conséquent qu'en vertu de ce principe, je cite Jean 23 dans Pacem in Terris du 11 avril 1963 au numéro 141, « Il n'appartient pas à l'autorité de la communauté de limiter l'action que les États exercent dans leur sphère propre, ni de se substituer à eux. Elle doit au contraire tâcher de susciter dans tous les pays du monde des conditions qui facilitent non seulement au gouvernement, mais aussi aux individus et aux corps intermédiaires, l'accomplissement de leurs fonctions, l'observation de leurs devoirs et l'usage de leurs droits dans des conditions de plus grande sécurité. » Fin de citation. Vous voyez, le principe de subsidiarité, c'est la communauté européenne devrait prendre en charge ce que les États membres ne peuvent pas faire. Mais ce n'est pas la communauté européenne qui doit déléguer un certain nombre de compétences aux États membres en fonction de sa priorité d'action. Ça, c'est le principe de subsidiarité complètement inversé. Et c'est malheureusement ce qui est la pratique actuelle de l'Union européenne, bien souvent. Donc on peut se poser des questions sur le fondement démocratique de cette Union européenne.